Docteur Luc.
Docteur, j'ai une question à vous poser.
Docteur, que dois-je prendre pour soigner ce mal dont je souffre?
Docteur, j'ai de la fièvre le soir et cette fièvre disparaît le matin au réveil. Que pensez-vous que j'ai et quels médicaments me conseillez-vous?
Docteur Luc est une série d'émissions qui vous conseillera tant sur votre santé physique que spirituelle à la lumière de la parole de Dieu. Une émission de Transworld Radio, produite et présentée par votre serviteur, Abdoulaye Sango.
Moussa était âgé de 65 ans. Un jour qu'il faisait les 100 pas, il commença à sentir une sérieuse douleur au niveau de la poitrine. Il arrêta de marcher et la douleur disparut. Il se reposa quelques minutes puis essaya de reprendre sa marche. Mais la douleur se manifesta à nouveau. Quand il marchait, la douleur reprenait. Quand il arrêtait de marcher, la douleur s'estompait aussi. Il ménagea ainsi ses efforts pour se retrouver tout doucement au pied de l'immeuble où il habitait. Comme il habitait à l'étage, il pressentait que cela allait être difficile d'atteindre son appartement. En effet, plus il faisait l'effort de monter les escaliers, et plus la douleur devenait sévère, comme si on opprimait sa poitrine. Tout de suite, le malaise s'accompagna de nausées et de transpiration. Un ami qui montait les escaliers remarqua que ça n'allait pas chez lui et l'aida à monter à son appartement. Puis il fit appel à une ambulance qui le conduisit à l'hôpital. À l'hôpital, les analyses conclurent à une sévère attaque cardiaque. Il ne mourut pas ce jour-là, mais les médecins discutèrent avec sa famille sur les options de traitement. En Afrique et dans le monde, beaucoup de personnes comme Moussa connaissent des crises cardiaques. Beaucoup succombent de ces attaques. Et ceux qui survivent ont souvent des problèmes de santé importants après et finissent par mourir tôt ou tard. Alors, question, est-ce qu'il existe un traitement après une crise cardiaque et si oui, en quoi consiste ce traitement? Premièrement, le plus important en matière de traitement de crise cardiaque, c'est la prévention. Nous l'avions mentionné dans les programmes précédents, mais il est bon de le rappeler. Quand une personne subit une attaque cardiaque, cette personne mourra plus tôt que prévu d'une seconde attaque cardiaque. C'est pourquoi la prévention demeure le meilleur traitement. En d'autres termes, en matière de maladie cardiaque, la solution réside dans la prévention et non dans le traitement. Alors la prévention, comment ça se passe? La première chose, c'est un bon régime alimentaire pour garder la ligne. Deuxièmement, il faut faire des exercices physiques de façon régulière, au moins 20 minutes d'exercice par jour. Ensuite, il faut contrôler votre tension artérielle et vérifier que vous n'avez pas un diabète. Mais si c'est le cas, il vous faudra contrôler votre diabète. Comment savoir ces choses? Il suffit tout simplement de vous confier à votre médecin qui fera les tests et les analyses nécessaires pour vous situer sur l'état de votre santé. Si vous êtes fumeur, il vous faudra aussi arrêter de fumer. Si vous observez ces recommandations à la lettre, vous aurez beaucoup de chances de ne pas être victime d'une crise cardiaque. Maintenant, si cela arrivait, en quoi consistera le traitement? Premièrement, rappelez-vous qu'une crise cardiaque est tout simplement le résultat d'une obstruction des artères qui environnent le cœur et l'approvisionnent en sang. L'attaque cardiaque survient lorsque le sang n'arrive plus à irriguer l'un ou plusieurs de ces artères. Comment remédier à cela? Deux solutions des plus courantes existent. La première, c'est la solution médicale, c'est-à-dire par médication, et la seconde, c'est la voie chirurgicale. La médecine connaît tellement de progrès qu'il se pourrait que d'autres solutions soient en cours d'expérimentation. Il y a 15 ans, ce qui est fait pour aider les patients victimes d'une crise cardiaque aujourd'hui n'était pas possible à cette époque. Alors, quel genre de médicaments sont utilisés? Il y a beaucoup de nouveaux protocoles de traitement qui permettent de faire baisser le taux de cholestérol ou d'aider le cœur qui n'arrive pas à pomper correctement le sang. Il existe environ 7 à 8 classes de médicaments différents qui peuvent être utilisés. Cela va vous étonner, mais le plus simple et probablement le plus important de ces médicaments, c'est l'aspirine. La prise de l'aspirine peut beaucoup aider à la prévention d'une autre attaque cardiaque. En fait, dès que quelqu'un subit une attaque cardiaque, on lui donne de l'aspirine. L'aspirine est donc à la fois un médicament préventif et un traitement. L'aspirine est préventive pour ceux qui n'ont jamais eu d'attaque cardiaque et un traitement pour ceux qui ont déjà eu une attaque cardiaque. Cela dans le but de prévenir une seconde attaque. À une faible dose d'environ 81 mg par jour, l'aspirine agit comme un traitement préventif. Cela est plus important chez l'homme que chez la femme. On ne sait trop pourquoi, mais dès qu'une attaque survient, la dose qui est conseillée doit atteindre 325 mg par jour. Le petit problème de l'aspirine, cependant, c'est que même administré à faible dose, mais de façon régulière, il peut causer des ulcères d'estomac. La solution à ce petit problème est de demander au pharmacien de l'aspirine enrobée ou de prendre la dose recommandée le matin au milieu d'un repas. Alors, à quel âge peut-on conseiller de commencer à prendre l'aspirine comme traitement préventif? Les hommes pourraient commencer à prendre 81 mg d'aspirine par jour lorsqu'ils approchent la trentaine ou au plus tard à l'amorce de leur 40e année. Quant aux femmes, elles peuvent commencer leur traitement préventif à l'aspirine à l'approche de leur 40e année ou au début de la cinquantaine. Mais pourquoi cette différence entre les hommes et les femmes? En général, les femmes commencent à avoir des attaques cérébrales et cardiaques 10 ans après les hommes. Pourquoi cela? Beaucoup d'experts croient que cela a un rapport avec la ménopause chez la femme. La femme continue de sécréter de l'estrogène dans son corps jusqu'à l'âge de la ménopause. Et cette hormone protège contre les maladies du cœur et du cerveau. Souvenez-vous que ce sont les ovaires chez la femme qui sont responsables de la production de l'estrogène jusqu'à ce qu'elle atteigne la ménopause. Vous comprenez peut-être un peu pourquoi il y a plus de veuves que de veufs. C'est donc l'arrêt ou le manque d'estrogène chez la femme à un certain moment donné qui cause l'état de ménopause. C'est pourquoi c'est après la ménopause que la femme est sujette à des attaques cardiaques et cérébrales. Mais à partir de 60 ans environ, la femme, tout comme l'homme, est sujette au même taux de risque. En fait, la Bible a beaucoup à dire non seulement au sujet du cœur physique de l'homme, mais aussi sur son cœur spirituel. Savez-vous que chacun de nous avons un cœur physique et un cœur spirituel? Ce cœur spirituel est le centre de nos pensées et de nos émotions. 1000 ans avant Jésus-Christ, le roi David a écrit à propos de ce cœur et je cite « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous se sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Qu'est-ce que cela signifie? Les gens qui disent qu'il n'y a point de Dieu sont fous, ils sont corrompus, et ce sont des gens qui ne font pas le bien. Pourquoi? Parce que leurs folles actions résultent de leurs actions ou de leurs pensées insensées. Par exemple, quand ils font le bien, c'est en réalité pour leur propre profit et non au profit des autres. La seule raison par laquelle ou pour laquelle ils commettent ce qu'ils appellent le bien n'est pas le bien-être ou le salut de l'autre, mais plutôt la recherche d'une récompense pour eux-mêmes. On n'appelle pas cela de la bonté, il s'agit plutôt de l'égoïsme. Dieu dit que tous ceux qui ne le confessent pas sont de ce genre. Alors, y a-t-il quelque chose à faire dans ce cas? David a écrit beaucoup de poèmes qu'on retrouve dans la Bible. Par exemple, le psaume 54 nous donne une réponse. « Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme, le mal retombera sur mes adversaires. En ayant-il l'air dans ta fidélité, je t'offrirai de bon cœur des sacrifices, je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. » Dieu n'est pas seulement un soutien pour David, mais il le délivra de ses troubles et de ses ennemis. Qui n'aurait pas aimé avoir une telle promesse? La Bible nous dit que la personne qui nous délivre de nos troubles, c'est Dieu. C'est pourquoi Dieu est venu sur la terre en la personne nommée Jésus. Jésus était Dieu lui-même. Mais pourquoi Dieu a agi ainsi? Parce qu'il nous aime beaucoup. Un homme nommé Jean a écrit un livre qui se trouve dans la Bible et qui porte son nom. C'était aux environs de 90 après Jésus-Christ. Et dans ce livre, Jean a dit beaucoup de choses à propos de Jésus. Premièrement, il a dit ceci, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Cette déclaration nous révèle clairement que Jésus était Dieu. Un autre nom attribué à Jésus était « la parole » ou « la parole de Dieu ». Un peu plus loin, Jean dit toujours dans son livre, « La parole est devenue chair et a habité parmi nous. » Cette parole nous révèle que Jésus est devenu chair comme nous pour nous montrer qu'il nous aime et qu'il veut s'identifier à nos faiblesses. Ce qui voudrait aussi dire qu'il prend soin de nous et veut que nous le comprenions. Et la seule façon de nous le prouver, c'était de venir vers nous dans un corps semblable au nôtre. Et un peu plus loin, Jean dira ceci de Jésus, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Revenons donc au traitement à l'aspirine. À côté du traitement à l'aspirine, il existe d'autres moyens de traitement. Nous allons continuer de voir les autres traitements médicaux avant de voir la solution chirurgicale. Il existe plusieurs types de médicaments qui peuvent être utilisés pour traiter une crise cardiaque. Je voudrais vous épargner leur nom et le protocole de traitement parce que cela est un peu trop complexe pour une émission radiophonique. Cependant, ce que vous devez retenir, c'est que ces médicaments existent et sont tous des traitements qui aident le patient qui vient de subir une attaque cardiaque. Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention à présent, c'est sur la classe de médicaments appelée statin. C'est un groupe de médicaments qui sont utilisés depuis les années 90. Ce sont des médicaments qui aident beaucoup et il y a des centaines de milliers de personnes à travers le monde qui sont sous ce traitement en ce moment. Cette classe de médicaments est spécialement importante parce qu'elle agit doublement sur la prévention d'une première crise cardiaque et sur la prévention d'une récidive. Ces médicaments agissent sur le taux de cholestérol. Car souvenez-vous, nous avons déjà parlé du rôle que joue l'accroissement du taux de cholestérol dans la survenance d'une crise cardiaque. Ces médicaments sont reconnus comme étant sains car les effets secondaires après plusieurs années d'utilisation sont négligeables. En plus, ils donnent 40% plus de chances aux personnes ou patients qui sont sous ce traitement qu'à ceux qui ne le sont pas. La seconde classe de médicaments qui peut être utilisée dans le cadre d'une attaque cérébrale sont des médicaments qui peuvent être utilisés contre le diabète. Les patients diabétiques ont un risque élevé d'attaque cardiaque. Il est donc important pour elles de contrôler leur diabète pour prévenir une attaque cardiaque ou une récidive. En plus de la médication, il faudra associer une bonne hygiène de vie, exercice physique régulier, observance stricte du régime alimentaire, observance rigoureuse de la visite médicale, visite donc régulière chez le médecin. Voilà, fidèles auditeurs, le temps qui nous est imparti est achevé. Nous allons vous retrouver à ce rendez-vous hebdomadaire, et rendez-vous au cours duquel, pour la prochaine fois, nous parlerons des excès de cholestérol. Que Dieu vous garde.
Maladie ou santé, à votre choix. Dieu est l'auteur de la vie, le créateur de notre corps. Il est le docteur par excellence. Confiez-lui votre corps comme un temple qui lui agrée d'habiter.
En suivant les conseils de la parole de Dieu, vous préservez et votre santé physique et votre relation avec Dieu pour l'éternité. Jésus dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. »